c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Chute, on écoute la télé avec Mazagran Immobilier. La Maz Team vous propose toute transaction immobilière pour particuliers et professionnels et une connaissance parfaite de son secteur. Mazagran Immobilier, c'est 4 agences sur les deux Charentes à votre service. Angoulême, Barbezieux, Villebois-la-Valette, Saint-Genis-de-Saint-Onge et sur mazagran-immobilier.com.
Chute, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Attitude.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chute on écoute la télé l'hebdo sur Attitude. J'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure, pendant votre déjeuner, entre 13h et 14h. On va passer en revue ensemble l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, sans plus tarder, voici tout de suite le sommaire.
Chute on écoute la télé,
le talk show radio.
Et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro donc de Chute on écoute la télé avec au sommaire évidemment aujourd'hui un coup de cœur ciné qui va être consacré au film Les Amandiers qui sortira le 16 novembre prochain au cinéma. À cette occasion, on recevra Valeria Bruni Tedeschi, la réalisatrice, accompagnée de ses comédiens Nadia Tereskevich, Vassili Schneider et Sofiane Benacer. On va parler dans quelques instants avec Pascal Elbé, Patrick Timsit de leur nouveau projet de boîte de production de comédie romantique. Et puis nos coups de cœur télé aujourd'hui en ce jour d'Halloween. On va avoir le bonheur de recevoir Gaïa West qui sera l'affiche de Marie-Antoinette qui débarque ce soir sur Canal+. On aura le plaisir également de converser avec Lazare Timsit qui vous propose Physio, un très beau documentaire sur France.tv. Et puis on va également parler de Plus belle la vie. La série s'arrête dans quelques semaines maintenant et on va en parler évidemment des souvenirs de tournage avec les comédiens. C'est Eleanor Sarrazin et Caroline Rioux qui sont aujourd'hui avec nous.
L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, on va parler production aujourd'hui, on va parler comédie romantique avec nos deux amis qu'on est toujours très heureux de recevoir. Alors raccrocher un peu, on va dire, le one man show en faisant ses adieux et encore peut-être sur scène, Patrick Timsit. Bonjour Patrick.
Bonjour, maintenant ça s'appelle adieu, c'est sûr, parce que je prolonge à la Comédie des Champs-Élysées. Tout le monde se moque de moi, mais on a le droit de prolonger.
Oui, adieu. Je le savais.
Prolongation, non, pas je continue, je prolonge.
Voilà, c'est pas la même chose.
Du tout.
Et Pascal Elbé, oui. On est vraiment fait pour s'entendre, Pascal. Hein. C'est le film à ne pas manquer en VOD et DVD d'ailleurs, que vous pouvez revoir. Très beau film de Pascal Elbé qu'on vous a fait découvrir l'année dernière. Il est avec nous, Pascal. Bonjour.
Bonjour. Je suis très content d'être aujourd'hui avec Patrick.
On va parler comédie romantique puisque vous avez eu la bonne idée de vous associer tous les deux pour monter une boîte de production qui va se spécialiser dans les comédies romantiques. Alors pourquoi déjà? Qui a eu l'idée? Comment c'est venu?
Alors déjà, c'est le troisième, du coup, parce qu'on est tous les deux là face au micro, mais on est trois. Et c'est l'idée de ce producteur qui s'appelle Patrick Holzman, qui a Black Pills. Et on a passé un moment ensemble, on a passé quelques jours ensemble, et on se racontait nos vies, on se racontait la vie. Et on s'est dit, mais quel formidable sujet de collection. Pourquoi on ne ferait pas une collection sur des histoires, sur cette seconde chance, seconde vie, ces hommes, ces femmes, 50, 60 balais, qui se retrouvent dans des histoires d'amour. Arrêtez de faire en sorte que... Arrêtez d'imaginer qu'à chaque fois qu'on dise amour, ça va être oui, bah, guimauve. Non, c'est pas collection Harlequin, c'est puissant, c'est de la comédie romantique, justement, le romantisme, ça peut être cruel aussi, et on se dit, mais quel reflet de la vie, et d'aller vers cette légèreté, finalement, de ce principe de comédie romantique.
Alors, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés à travers cette collection de 8 films, hein, oui. En tout, hein.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, ça nous permet d'avoir un spectre assez large de sujets, mais évidemment, c'est des sujets qu'on aura discutés ensemble, qui sont des choses qui nous ressemblent un peu dans notre réflexion du monde d'aujourd'hui. Et après, c'est de se dire, voilà, c'est quand même une liberté folle de se dire, voilà, il y a une thématique globale qui est cette seconde chance sur ces personnages-là.
Le format, c'est 52 minutes.
On est sur du moyen métrage en quelque sorte. C'est pour le cinéma ou ça va être pour la télévision?
Ah non, pour l'instant, ce sera pour une plateforme ou pour la télé. Mais...
Ah bah c'est le format idéal, que ce soit pour les plateformes ou les chaînes de télévision. C'est le plus facile à vendre, 52 minutes.
Génial, comme ces mini-séries de prestige qui sont dans ces formats où on s'en fait deux, voire trois dans la soirée.
Alors vous allez faire appel à des talents confirmés évidemment pour cette collection, mais également, et ça c'est votre volonté de faire appel à des jeunes talents et de mettre en lumière aussi des nouveaux talents à travers ces films.
Oui, vous savez, ce sera la prime aux talents. Et nous, les premiers, si on amène une idée qui est passable, elle passera pas, on s'auto-censurera. C'est encore une fois, c'est d'ouvrir le champ des possibles, mais en étant toujours, on va essayer en tout cas, c'est le principe de départ, d'être dans cette exigence de dire, voilà, est-ce que moi, je me calerai dans mon fauteuil pendant une heure pour regarder cette histoire? Il n'y a pas d'autre vérité.
C'est vraiment un projet nouveau qui nous amène encore de la réflexion sur la construction des équipes, d'écriture, sur le rôle qu'on a à jouer. C'est aussi l'heure du moment, quoi. C'est d'avoir tous ces couples qui ont été divorcés, refont leur vie et leur vie compliquée et toutes ces histoires qui sont
nouvelles.
On a
plus de choses à raconter dans la deuxième partie de notre vie, parce qu'on a vécu des choses, on a traversé des épreuves, on a beaucoup de choses un peu plus même à raconter que si on avait 20 ans. Évidemment, c'est l'amour à 20 ans, c'est de la passion, c'est beau. L'amour à 110 ans, ça peut être tout aussi beau et tout aussi passionné, mais peut-être parfois plus surprenant. Voilà. Il y a plus de limites aujourd'hui.
Est-ce que vous avez des envies de jouer? Est-ce que là, vous êtes derrière, évidemment, à travers la production, mais est-ce que vous autorisez aussi le droit de jouer dans l'un d'entre eux? Tous les deux?
Bien sûr, parce que la production, nous, vraiment, le rôle de la production, c'est réellement Patrick Holtzmann, le troisième complice, je dirais, plus qu'associé. Et évidemment que nous, on aura plus un rôle artistique, quoi, de directeur. Alors, le terme est pompeux, directeur de collection. Mais c'est vrai qu'on a envie qu'il y ait ce regard. Et évidemment, on a envie de jouer ensemble. Et
réaliser peut-être aussi?
Oui, mais vous savez, ce qui est l'originalité aussi du projet qui est né de cette envie commune, c'est aussi justement pour une fois de pas s'enfermer, j'allais dire, dans des cases. C'est l'envie qui est le moteur. L'envie, c'est-à-dire de rassembler des copains, des talents, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans la réalisation. C'est se faire un peu, à toute proportion gardée, c'est comme United Artists, c'est se dire, voilà, est-ce que nous, les camarades, nous, les clowns, j'allais dire, les saltimbanques, qu'est-ce qu'on peut pas nous aussi proposer des choses et si on est cadré, si on nous emmène bien, et avoir aussi un point de vue plutôt que d'être juste des porte-parole, on peut aussi nous faire.
C'est le but, parce que c'est le plaisir qui nous a liés, et donc c'est le plaisir qui continuera de nous animer. Et ce plaisir, on le partagera.
Dans l'idéal, vous avez envie que ça voit le jour quand?
Dans l'idéal, le plus rapidement possible, mais vous savez.
2023?
Non, parce que vous savez, en réalité, c'est une utopie de fixer un espèce de rétro-planning, parce qu'en fait la matrice principale, c'est l'écriture, et on va être très exigeant, parce qu'évidemment on s'aventure sur une contrée nouvelle, il faut pas se rater, donc on va être très exigeant sur l'écriture, et quand on sentira que ça y est, on peut lâcher le bébé, faudra qu'on aille vite. On est évidemment dans le calendrier, dans le meilleur des mondes, c'est de pouvoir se dire que dès l'année prochaine,
oui, exactement.
Pouvoir peut-être tourner les deux premiers ou quelques-uns déjà.
Exactement. Et puis 2023 peut être un bon départ vraiment pour avoir des équipes d'écriture solides, des sujets à développer, et pourquoi pas tourner en 2024. Mais c'est vrai que la seule échéance, c'est quand c'est prêt, quand c'est bon, quand on en a envie, et là boum, on part en production. Et là, effectivement, comme c'est une collection, j'ai l'impression qu'on tournera le premier quand on aura les 8 scénarios, quoi. C'est ce qu'il faudrait dans l'idéal.
Là, c'est une collection où un peu le principe, c'est de passer le relais. C'est-à-dire que nous, avec Patrick, on va s'occuper de la première saison. Et dans le meilleur des mondes, c'est qu'il y ait deux autres directeurs de collection à qui on va passer le relais, c'est n'importe qui, pour justement proposer aussi le regard. Cette espèce de d'énergie qui circule et qui tourne, c'est aussi ça l'idée, et qu'il y ait cette espèce de synergie entre tout le monde. Moi, je trouvais ça formidable qu'après, avec Patrick, on discute, tiens, quelles sont les deux personnes qu'on pourra associer.
Exactement.
Voilà.
Oui, parce que nous, ce qu'on aura c'est aussi un concept.
Vous aurez l'occasion de revenir en parler. Nul doute, en tout cas, que le plaisir avec lequel vous êtes parti sur ce projet-là transpira. Et nous, évidemment, on en prendra à le regarder. Parce que quand les choses sont faites avec plaisir, automatiquement, ça transpire et le public le ressent aussi. Donc voilà, on a hâte de découvrir ça.
C'est aussi l'avantage de ces âges. Nous ne sommes pas obligés de le faire. Donc si nous ne sommes pas obligés de le faire, c'est qu'on vraiment, il y a quelque chose qui est plus fort que cette nécessité de, comme vous parliez, d'échéance, pas d'échéance. Hein. Nous, on est là et vraiment, c'est le projet qui nous réunit et non pas nous qui avons cherché à faire un projet n'importe lequel pour pouvoir exister.
Écoute, en tout cas, l'occasion est bonne et on reste en contact parce qu'on se fera un plaisir, en tout cas, même si vous le souhaitez, de vous offrir la possibilité de faire des avant-premières ou des choses comme ça, si vous le souhaitez. Vous organisez même des projections. Merci à tous les deux.
Avec bonheur.
Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Coup de cœur télé pour la nouvelle coproduction internationale qui débarque ce soir sur Canal+. Marie-Antoinette, on va en savoir beaucoup plus après Versailles. Eh bien, c'est un autre pan de l'histoire de France que l'on va découvrir avec cette série. Et on a la chance d'avoir une des actrices avec nous aujourd'hui, Gaïa West. Bonjour Gaïa.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, une carrière longue comme le bras, des séries incroyables diffusées partout dans le monde. Et quand on fait des coproductions internationales, c'est une visibilité énorme pour une comédienne.
Oui, j'ai fait une école d'art dramatique à Londres et donc j'ai commencé ma carrière à Londres et j'ai fait un peu le mouvement inverse, c'est-à-dire que je suis revenue de Londres pour habiter à Paris après y avoir vécu 7 ans, donc j'ai démarré là-bas avec des séries internationales.
Alors c'est ça qui est génial. Alors là, vous incarnez la comtesse du Barry.
C'est ça. Tout à fait. La comtesse du Barry, qui est une femme moderne, qui est une femme qui, à une époque où, quand on était né pauvre, on restait pauvre. Ce qui est un peu le cas encore aujourd'hui, malheureusement, mais c'était encore plus le cas à l'époque et qui a su gravir les échelons et
s'imposer.
S'imposer et j'allais dire climb the social ladder, comme on dirait en anglais, mais c'est grimper l'échelle sociale et travailler dur pour être là où elle en est au début de cette série, finalement, Marie-Antoinette. C'était quelque chose qui n'était pas donné à tout le monde. Il y a une part de chance, mais aussi elle a su saisir les opportunités, elle a su tirer avantage du peu qu'elle avait.
C'est vrai que c'est un personnage complexe. Enfin, on le découvre évidemment au fur et à mesure, même si le personnage est centré, évidemment, la série est centrée sur Marie-Antoinette. Moi, j'adorerais qu'une série comme ça, enfin, j'aurais aimé, quand j'étais à l'école en tout cas, qu'une série comme ça me soit diffusée pour peut-être apprendre plus facilement à des lycéens, à des élèves sur l'histoire. Parce que Marie-Antoinette, pour ceux qui ne le savent pas quand même, pour les jeunes peut-être qui nous écoutent, c'est une reine d'Autriche qui a été envoyée en France pour être mariée de force en quelque sorte à 14 ans à Louis XVI. Et voilà, c'est tout un pan de l'histoire. Elle est devenue reine de France, qui a été guillotinée ensuite après la Révolution. C'est un parcours hors du commun qu'on va découvrir dans cette série.
Oui, tout à fait. Et c'est, enfin moi, ce que j'aime dans l'écriture de Deborah Davis, c'est qu'elle se concentre sur les personnages, sur les humains, sur l'humain derrière les personnages historiques. Et quand on lit un livre d'histoire, bon, on a les faits, on a les biographies qui sont toujours plus ou moins subjectives. Et là, ce qui est intéressant dans cette série, c'est qu'on voit l'humain derrière chaque personnage historique.
C'est chouette de tourner en costume. Ça a toujours un charme particulier, je suis sûr, sur un tournage, justement. C'est quelque chose de grandiose.
Oui, moi, j'ai fait pas mal de séries historiques. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça aide à se fondre dans la peau du personnage. C'est-à-dire qu'on joue pas quelqu'un d'extérieur. Enfin, on devient le personnage. Et mes 2h30 de préparation le matin sont un moment pour moi où vraiment c'est presque un état méditatif où petit à petit, j'arrive en jogging avec mes Hugues Gaïa Weiss et je ressors Madame du Barry après 2h30 de préparation. En plus, là, les costumes sont absolument incroyables. On avait une équipe costumes fantastique qui nous ont... Tous les costumes sont faits sur mesure, y compris les corsets. J'ai trouvé particulièrement confortable. C'est-à-dire que, en même temps, le corset force à avoir une certaine posture, donc un maintien, et on respire différemment, on s'exprime différemment. Mais en même temps, enfin, mon expérience n'était pas... J'étais pas inconfortable dans mon costume. C'était pas forcément le même cas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça particulièrement confortable pour un corset.
Qu'est-ce qui vous a marqué sur ce tournage ?
Oh, tellement de souvenirs. Enfin, ce que j'ai trouvé absolument merveilleux, c'est que malgré le rythme assez intense, et c'est absolument pas inhabituel pour des séries historiques, voilà, c'est un rythme effréné, on dort peu, on se lève tôt, on se couche tard, on est souvent sur de différents lieux, on bouge beaucoup. Mais on avait un casting fantastique et bien que nos personnages se fassent la guerre et qu'il y ait beaucoup de conflits, en fait, nous, on s'entendait très bien et je pense que cette complicité se traduit à l'écran. notamment, enfin, j'ai adoré travailler avec James Purefoy qui joue Louis XV et qui était donc, j'allais dire, qui était mon partenaire principal, enfin, Madame du Barry étant la favorite.
La museuse.
Voilà, la museuse du roi, la favorite du roi. Du coup, on avait beaucoup de scènes ensemble et on avait cette complicité qui fait que, voilà, je pense que ça va se traduire à l'écran.
Ce qui est aussi frappant dans des séries historiques comme ça, c'est que souvent, même pour un réalisateur ou une réalisatrice, ça doit être assez dingue. Il y a énormément de monde devant l'écran. Que ça soit de la figuration, que ça soit des grandes scènes de tablé, c'est assez dingue.
Oui, on avait un peu des deux. On avait des grandes scènes de bal, des scènes avec beaucoup de figuration, mais aussi beaucoup de conflits en privé. Genre ce sont les backstage de Versailles, les coulisses de Versailles. Donc on a eu certains moments où on était juste en one on one, enfin Marie-Antoinette du Barry ou Louis XV, Louis XVI, voilà. On jouait un peu sur les deux.
Alors ce qui est frappant aussi, c'est qu'on découvre plein de choses historiques. Est-ce que vous, Gaïa, quand vous avez lu le scénario, quand vous avez tourné, vous avez appris plein de choses de cette histoire, ou vous étiez documenté juste avant, juste sur la comtesse du Barry, sur Marie-Antoinette? Comment vous étiez préparé à ce rôle?
Oui, moi c'est une de mes parties préférées de manière générale, mais en jouant un rôle historique connu du grand public, moi j'adore cette partie recherche. C'est mon côté étudiant, je serai une éternelle étudiante. Et tout le monde a son avis sur chacun des personnages de Versailles. Les biographies diffèrent, enfin certains événements diffèrent. Mais j'avais besoin de me construire un imaginaire pour comprendre quelles sont ses motivations, parce qu'une personne cruelle au sein d'une histoire, j'ai besoin de comprendre ses motivations en fait, d'où elle vient, et pour la rendre humaine et authentique. Et je pense que c'est ça qui fait la modernité de ce show, de cette série, c'est que chacun, on a su amener notre authenticité, on a su comprendre nos personnages pour les incarner et pour se dire, attends, en fait Marie-Antoinette était autant une menace pour Madame du Barry que Madame du Barry était une menace pour Marie-Antoinette. Donc en fait, en amenant mes propres sentiments, enfin, en me construisant cet imaginaire, j'ai pu amener mes propres motivations, mes propres sentiments vis-à-vis d'une situation, de ce qui peut se passer entre elles deux.
En tout cas, vous allez découvrir vraiment une série à grand spectacle ce soir, les deux premiers épisodes de cette fiction, Marie-Antoinette, à ne pas rater sur Canal+. Gaïa, il y a plein de beaux mondes autour de toi. On cite quelques personnes du casting.
Oui, Emilia Schüle qui fait un travail absolument extraordinaire en tant que Marie-Antoinette, James Purefoy qui interprète Louis XV, Louis Cunningham qui joue Louis XVI, et Marthe Keller qui interprète la mère de Marie-Antoinette, une mère autoritaire, une figure qu'on apprendra à connaître dans cette série aussi.
Une des plus grandes actrices françaises, effectivement, et qu'on adore toujours voir, pas que française, mais en tout cas qu'en France, nous, on adore voir, effectivement, et qu'on connaît depuis longtemps, et qu'on va voir dans cette fiction aussi. Marie-Antoinette, c'est ce soir sur Canal+, à 21h. Merci Gaïa d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
On va se quitter avec la bande-annonce, et on se dit à très vite.
À très bientôt.
Bienvenue à Versailles.
Les secrets n'existent pas ici.
Ton devoir est de mettre au monde un héritier.
Tu crois qu'elle est prête?
Je peux la préparer?
Oui.
Il ne faudra pas longtemps avant qu'il la renvoie de France.
Ne renonce jamais. Passe à l'attaque.
Attitude.
Et on va parler du film Physio qui est en ce moment sur la plateforme France.tv. Un film réalisé, première réalisation pour Lazare Timsit qui est avec nous, avec un nom de famille bien connu. Et c'est le fiston après le papa justement. Bonjour Lazare.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors c'est assez drôle parce que vous êtes dans la même émission tous les deux, puisque Patrick était avec nous il y a quelques minutes pour nous parler de ses projets avec Pascal Elbé. Et donc c'était l'occasion pour moi, voilà, d'accueillir son fils pour cette première réalisation que j'ai trouvé remarquable, Lazare, parce que Physio, c'est un film à ne pas manquer sur la plateforme France.tv. Ça veut dire que c'est accessible à tout le monde et que c'est un film nécessaire qui fait prendre conscience de pas mal de choses. Mais on va revenir un peu à la base pour commencer. Lazare, Physio, c'est quoi? C'est qui? Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui un physio?
Physio, alors c'est diminutif de physionomiste. C'est la personne qui va en fait devoir faire un travail de filtration, disons, pour s'assurer que les personnes qui puissent rentrer en boîte de nuit ne sont pas trop alcoolisées, violentes, sont vraiment là uniquement pour faire la fête. C'est vraiment la personne qui va être la garante un peu, si je puis dire, de la bonne tenue de la soirée. C'est voilà, c'est la personne à l'entrée qui, on a pu alors avoir des plus ou moins bons souvenirs avec ces personnes-là, hein, qui va vous dire si vous pouvez ou non rentrer à l'intérieur du club. et se voir donc accorder le Graal, le pass, pour pouvoir faire la fête toute la nuit, quoi.
Alors Lazare, après deuxième question, peut-être pas si évidente que ça, mais qu'est-ce qui t'a donné envie, en tout cas, de faire un sujet là-dessus pour une première réalisation?
Alors moi, pour être tout à fait franc, j'étais quelqu'un d'assez noctambule, j'étais quelqu'un qui faisait pas mal la fête quand j'étais plus jeune, et il m'est arrivé en fait de me faire un petit réseau d'amis qui travaillaient dans le monde de la nuit, et je me suis rendu compte en écoutant leurs histoires qu'elles étaient passionnantes, que c'était un monde qui était fascinant. Et j'avais vu aucun documentaire sur la physionomie de boîte de nuit. Alors on a tous été confrontés aux physionomies de boîte de nuit. Les réactions sont toujours plus ou moins les mêmes, hein, très clivantes. Quand on dit physio, on dit ah c'est le mec qui nous refuse à l'entrée. Alors pas toujours. Et je me suis dit voilà, c'est vraiment un sujet fort, mystérieux qu'on n'a jamais vu. Et donc je voulais tout bêtement faire le premier doc sur les physionomies, quoi.
Alors Lazare, il faut dire que même si on est aujourd'hui le 31 octobre et que c'est Halloween, les situations aujourd'hui auxquelles sont confrontés ces physios, comme on les appelle, sont parfois terrorisantes, hein, clairement.
Elles sont très compliquées. Si vous voulez, en fait, c'est vraiment ce que je voulais montrer, moi, avec ce documentaire. C'était que c'était avant tout des gens qui vraiment étaient là pour assurer notre propre sécurité, parce qu'on la plupart du temps c'est assez méconnu, mais ces personnages sont confrontés à des situations qui sont vraiment très 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 dangereuses, et ils doivent parfois refuser des gens qui sont pas toujours très commodes, si je puis dire. Et donc effectivement, on le voit dans le documentaire, ils se sont déjà fait tirer dessus, menacés, on les attend, parfois même on essaye voilà, de les attaquer avec des armes blanches.
Donc, les insultes, c'est leur quotidien, faut le dire aussi.
Bien sûr, les insultes, c'est leur quotidien. Donc évidemment, ils sont confrontés à des situations qui sont violentes, parce que la société dans laquelle on vit aujourd'hui est très violente. Donc ce sont un peu des remparts face à tout cela.
Ouais, c'est ça qui est dingue. Et quand je les vois témoigner en disant que la situation est de plus en plus critique et de plus en plus violente, on se demande franchement où on va et comment il est possible encore de faire ce métier-là. Il faut savoir qu'ils témoignent tous à visage découvert, personne n'est flouté là, dans ces physios. Comment ils ont pu trouver le courage, et surtout comment toi, Lazare, tu as pu les convaincre de témoigner comme ça à visage découvert?
Je crois que c'est d'abord un rapport de confiance, parce que j'ai tout de suite voulu leur dire que je voulais pas faire du tout un documentaire qui soit à charge, c'est pas du tout un reportage. C'est vraiment quelque chose que je voulais de très intime. Et donc en fait, ça a été vraiment lié. J'ai dû vraiment nouer des contacts avec eux qui étaient très très précieux. Donc ça a été beaucoup de discussions, ça a été vraiment beaucoup d'explications. Ça a été très 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 long pour les convaincre, évidemment, parce que ce sont des personnes qui sont très mystérieuses, qui veulent pas non plus trop en dévoiler, parce que c'est à juste titre. Elles ont peur que la personne qui soit en face soit malveillante, veuille dire des choses qu'ils n'ont pas dit ou ce genre de choses. Donc vraiment, ça a été un long dialogue. Pour certains, je les connaissais. Pour d'autres, ils m'avaient recalé par le passé, donc je les connaissais aussi, mais eux ne me connaissaient pas. Mais voilà, ça a été vraiment de longues discussions. Et ils ont très vite compris que j'étais là, non pas pour faire quelque chose de racoleur ou sulfureux à débattre, mais vraiment pour témoigner de leur vie et de ce qu'ils vivent. Donc à partir de ce moment-là, le contrat de confiance étant respecté, ça a été très rapide.
Lequel t'as le plus bluffé?
En fait, ce que je voulais pour ce documentaire, c'est vraiment avoir 5 personnalités très différentes, 5 physionomistes qui travaillent dans des lieux très différents, c'est-à-dire de la boîte la plus sélecte à la boîte la plus populaire. Je voulais que tous les Français qui regardent ce documentaire puissent se reconnaître. C'est-à-dire, ah ben moi je suis sorti dans ce type de boîte-là ou dans ce type de boîte-là. Donc il n'y en a pas un qui m'a bluffé plus qu'un autre, ils m'ont tous bluffé, pour être franc. Je m'attendais moi-même, hein, en tant que voilà, j'ai réalisé le documentaire, mais j'étais d'une certaine façon, comme c'est un documentaire, aussi un petit peu spectateur, puisqu'on on découvre des choses sur le tournage. Et ils m'ont tous bluffé par leur courage, par leur humanité, leur sincérité. On s'attend forcément à avoir un certain type de personnes en face de nous, et très vite on se rend compte que c'est pas du tout ça. C'est des gens qui sont pleins de tendresse, qui vraiment prennent soin des clients lorsqu'ils sont trop ivres, qui évidemment de temps en temps doivent dire non, et c'est jamais agréable de dire non, c'est ce qu'ils disent, mais qui toujours essaient de désamorcer la situation. Donc vraiment, ça, ils m'ont tous bluffé.
Oui, et puis ce qui est frappant aussi, c'est que dans leurs témoignages, ils le disent de même, on ne dit pas non de gaieté de cœur, et pourtant chaque soir, ils disent non au moins une fois sur deux. Et il est vrai qu'ils le vivent des fois même pas très bien, finalement, même si on a l'impression qu'ils gardent une certaine froideur aux portes de ces établissements.
Pour être tout à fait franc, pour vraiment les connaître et les avoir suivis pendant très très longtemps, je peux vous assurer que c'est vrai, on ne dit jamais non de gaieté de cœur. C'est-à-dire que vraiment, ils pourraient vous expliquer par A plus B pourquoi ils disent non à chaque fois qu'ils disent non, et la plupart du temps, dans 99% du temps, c'est explicable. Maintenant, le problème, c'est qu'ils sont obligés d'être très froids à l'entrée. Pourquoi? Parce qu'ils sont face à des gens qui sont souvent très alcoolisés. Et lorsqu'ils arrivent et qu'il est 2h du matin et que ces mêmes personnes sont très alcoolisées et veulent faire la fête et voient refuser l'entrée, eh ben forcément, elles vont vouloir des explications. Ça va peut-être tourner en rond, radoter et devenir agressif. C'est un peu le souci, c'est-à-dire que c'est ce qu'expliquait Couquier à un moment donné, qui est l'un des physionomistes dans le documentaire. S'il sourit, s'il dit oui, s'il laisse la moindre petite brèche, eh ben, les clients qui sont en face vont vouloir s'engouffrer dedans. Et à partir de ce moment-là, il peut pas parce qu'il va avoir 1000, 2000, 3000 personnes par soir qui vont se présenter devant sa porte. Il n'a pas le temps, il n'a juste pas le temps parce qu'après, ça va faire des mouvements de foule et ça peut même devenir dangereux. Donc, cette apparente froideur, n'en est rien en réalité. C'est simplement, leur travail. Ils sont obligés d'être comme ça, malheureusement.
Bon, question un petit peu plus personnelle pour terminer. Lazare, comment réagit Patrick quand il a vu la première fois? Est-ce qu'il était fier?
Moi, je suis très, très proche de mon père. Donc, il était fier. Je sais pas s'il était... Oui, il était très heureux. Il était très heureux. Mais il a pas découvert. Hein. Moi, je suis très proche. Il était présent à toutes les étapes. Je pense... Vous savez, moi, j'ai toujours considéré que ce qu'on faisait, c'était de l'artisanat. C'est comme un père artisan qui un peu, si vous voulez, transmet un peu la passion à son fils. Donc, fier, je sais pas s'il était fier, mais en tout cas, il était présent tout au long du processus. Et nous sommes vraiment, on a un rapport électrique parfois, mais très fusionnel. Donc, oui, en tout cas, il a tout vu, évidemment.
Je vous conseille ce premier film de Lazare Timsit, ça s'appelle Physio, c'est sur la plateforme France.tv, c'est disponible du coup pour tous, tout le monde, c'est gratuit. Alors n'hésitez pas à aller voir ce très beau film, vous comprendrez peut-être d'ailleurs certaines choses, j'espère que vous découvrirez avant tout des humains et des parcours d'humains. Voilà, très très intéressant en tout cas. Merci beaucoup Lazare d'avoir été avec nous. On va terminer avec un petit extrait et puis on se dit à bientôt du coup.
À bientôt, ouais. Merci beaucoup en tout cas, vraiment.
À très vite.
Le physio, c'est le premier à accueillir les gens.
Thank you.
You're welcome. C'est le dernier à leur souhaiter une bonne fin de soirée.
Mon rôle, c'est que ça se passe super bien, que tout le monde s'amuse, tout le monde s'éclate.
Combien vous êtes, s'il vous plaît?
Quand dans l'espace de 1h30, tu dois choisir et décider pour 2000 personnes, c'est un truc de malade.
Non mais les baskets, c'est pas possible, je peux pas faire
en sorte. C'est ça là, un bon physio. C'est lui qui fait la soirée, en vérité.
Allez, encore quelques semaines pour profiter de Plus belle la vie jusqu'au 18 novembre et on va eh bien en parler avec nos comédiens qui vont se succéder. Vous le savez, jusqu'au 14 novembre, notre émission événement avec notre 100% Plus belle la vie, on va effectivement eh bien proposer une dernière grande émission avec tous ces merveilleux comédiens qui nous ont accompagnés pendant tant d'années. Et aujourd'hui, eh bien c'est Eleonore Sarrazin et Caroline Rioux qui sont avec nous, alias Sabrina et Laetitia Bellesta. Bonjour à toutes les deux les filles.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Alain.
Merci d'être là, ça me fait super plaisir de vous avoir. C'est des moments toujours compliqués, mais autant pour vous que pour le public, puisque ça va être le moment des adieux d'ici quelques jours, le 18 novembre sur France 3. Et pour revenir un peu sur une note, on va dire, beaucoup plus positive, revenons quelques années en arrière et se souvenir de votre arrivée dans la série, du premier jour de tournage. Caroline.
Alors moi je me souviens, c'était en fin octobre 2014, j'ai dû tourner le 24 octobre 2014. C'était suite à l'arrivée en fait de Théo qui fait le personnage de Kevin qui arrivait dans la famille. Et ma première séquence c'était avec le docteur Riva à l'hôpital puisque je venais récupérer, Laetitia venait récupérer son fils qui avait fait un peu le con avec Trésor Bayan dans le personnage de Baptiste. Et ils s'étaient mis dans un bidon et ils avaient dévalé et ils s'étaient retrouvés abîmés.
Première séquence, voilà, ça laisse des souvenirs. Pour toi, Léonore.
Moi, mes toutes premières séquences, j'étais en extérieur avec Sandra, en réalisatrice. C'était très tôt le matin et on était dans un parking, donc c'était un peu irréel. On aurait pu être en train de tourner n'importe quoi. Sinon, ma première séquence sur le 1000, c'était mon deuxième jour de tournage. C'était le 2 décembre 2015, du coup. Et là, j'avais 8 séquences le premier jour sur la place du Mistral. C'était la première fois que je la voyais, du coup. Avec ma toute première séquence, c'était avec Laurent qui joue Thomas, Léa qui joue Barbara et Emmanuel qui joue Francesco.
Alors évidemment, ça laisse des traces 7-8 ans comme ça dans une série. Vous avez dû vivre toutes les émotions possibles et inimaginables, que ça soit devant ou derrière les caméras, mine de rien.
Oui, parce qu'en 8 ans, forcément, il y a eu énormément d'évolution dans les personnages. Moi, je sais que j'ai été extrêmement gâtée par les auteurs. Le personnage a énormément évolué. Ce personnage qui se victimisait énormément, qui en voulait énormément à la société, qui avait plutôt une tendance à voter extrêmement à droite, a énormément évolué. Et la sympathie du public s'est vraiment accrochée par rapport à cette mère courage, on va dire. Donc non, c'est extraordinaire d'avoir pu avancer et de la retrouver aujourd'hui en place en tant que professeur et de donner la foi aux gens de pouvoir avancer et de faire quelque chose de sa vie, même à 40 ans.
Ce qui m'a frappé, c'est la vitesse à laquelle, que ce soit le personnage de Sabrina ou la famille Bellesta, la vitesse à laquelle ces personnages sont rentrés dans le cœur des téléspectateurs. C'était pas facile après Laetitia Millot quand même et son départ de la série. C'était pas facile de remplacer la serveuse emblématique du Mistral et tu y arrivais, mais tellement le public t'a tout de suite adopté, quoi.
Bah, merci beaucoup de dire ça déjà. Oui, il me semble qu'il y a eu une petite période tampon quand même entre le départ de Laetitia. J'étais pas le remplacement direct. J'étais pas le remplacement tout court d'ailleurs. J'étais la nouvelle serveuse du Mistral, oui. Après, j'ai été accueillie par le décor aussi vraiment. Où, du coup, très vite, quand on est au Mistral, on se retrouve à croiser plein de personnages différents avec lesquels on n'est pas nécessairement en intrigue, mais à croiser vraiment tout le monde et du coup d'avoir cette espèce de place centrale. Même si parfois un petit peu retiré, qui permet justement le temps d'apprécier ce qui se passe. Après, si les gens ont aimé Sabrina, moi je l'ai aimé très fort, donc ça me fait bien plaisir de l'entendre et que les gens l'ont aimé.
Pareil pour la famille Bellesta, t'as été surprise de voir justement à quelle vitesse le public a aimé cette famille.
Oui.
Moi, les témoignages à la mort du personnage de Jérôme, c'était dingue.
Je pense que c'est une famille qui manquait dans Plus belle la vie. Je pense que c'est une classe sociale qui me manquait à Plus belle la vie. Une famille qui représente la majorité des Français, qui ont du mal à boucler les fins de mois, qui le 10 du mois se demandent comment terminer pour bouffer, comment il va falloir payer les charges. Un gamin aussi au début qui est un peu difficile, un ado voilà qui
rebelle,
un mari syndicaliste qui essaie de retrouver du boulot et qui à 40 balais en fait se retrouve complètement plié parce qu'aujourd'hui la société te dit que faut continuer à avancer, sauf que ça pousse derrière. Bon, on va pas parler des retraites, mais voilà, aujourd'hui on t'a dit faut continuer, sauf que t'es périmé à 45 balais et que c'est extrêmement compliqué de pouvoir retrouver du travail. Donc je pense que oui, les téléspectateurs se sont énormément retrouvés dans les joies et dans les galères de cette famille, et je pense que c'est ça qui a plu. Puis moi je l'ai aimé ce personnage, je l'ai aimé, ça a été dur de le quitter.
Justement, s'il y a un souvenir qui revient, là, je suppose que, bah, évidemment, les scènes finales, le prime final dans lequel vous êtes toutes les deux, qui sera diffusé le 18 novembre prochain, ça a dû être quelque chose émotionnellement de très fort à vivre.
Oui, et ça se voit. On a eu la grande chance de voir un montage qui n'était pas vraiment terminé quand on l'a vu, mais on a vu la dernière séquence et la fin. Nous, ça y est, on a eu la petite avant-première, et ça se voit vraiment qu'on est tous plein d'émotions et que ça nous coûte de dire au revoir et que ça nous fait à tous plaisir de passer ces derniers moments ensemble. On a eu l'occasion de faire la fête nous tous ensemble aussi derrière. Je pense que c'est important de célébrer cette série, même si ça s'arrête et c'est triste un petit peu pour tout le monde. C'est particulièrement ça brise le cœur particulièrement quand on croise les gens dans la rue qui sont vraiment très très tristes que la série s'arrête. On aimerait continuer à les accompagner dans leur quotidien avec ces personnages qu'on aime tant, mais on a dit au revoir à nos personnages et ils disent au revoir à leurs petites habitudes. C'est comme ça.
Il y a un mélange de tristesse et de soulagement. Ces dernières semaines, tous les jours, on avait trois claps de fin sur le plateau. Donc vous continuez à tourner, puis d'un seul coup, hop, ça s'arrête. On fait un clap de fin pour un comédien, il y a des effusions, ça n'arrête pas, et ça dure. Puis à un moment donné, c'est votre clap de fin. Moi, j'ai eu une chance énorme, c'est qu'on avait une scène de groupe au moment où j'ai eu mon clap de fin, où à la fin, on disait « longue vie au Mistral ». Et puis, on le refait plusieurs fois, et dans la figuration, vous avez plein d'équipes techniques, paf, paf, qui se met. Et là, le Real, Jason, a pris justement dans cette figuration des techniciens, et c'était juste génial, parce que les gens ne vont peut-être pas percuter que ce sont des équipes, mais nous, quand on va voir les images, c'est formidable. Et ce clap de fin arrive, j'ai eu du mal à quitter le plateau. Je suis restée, j'ai traîné. Et puis je suis rentrée à la maison, et puis à un moment donné, il y a un soulagement.
Oui, ça y est, c'était fini.
Vous savez, c'est un deuil. On perd quelqu'un, et tant que, j'allais dire, on ne l'a pas enterré, ou on ne l'a pas incinéré, on vit. Tout ça, c'est lourd. Une fois que c'est terminé, ça ne veut pas dire que c'est fini, qu'on n'a pas de tristesse. Mais le dossier est fermé et ça nous permet d'avancer.
C'est pour le public que ça va être le plus difficile, ce manque dans les jours à venir aussi. En attendant, on continue à suivre vos aventures du lundi au vendredi à 20h15 sur France 3. Grande soirée exceptionnelle à ne pas manquer le vendredi 18 novembre. Ça démarre à 20h20 avec deux quotidiennes à suivre, les deux dernières, et puis suivi d'un prime et évidemment d'un documentaire sur les coulisses de la série. C'est vraiment une très très grande soirée qui s'annonce.
Et puis on y a mis tout notre cœur.
Exactement, et ça, voilà, j'en suis certain, on a hâte de voir tout ça. Mais en attendant, on a encore quelques jours à déguster, on va pas bouder notre plaisir. Merci à toutes les deux.
Merci à toi.
Merci beaucoup. Et merci au public de nous avoir suivis pendant ces 18 ans.
C'est ce que j'allais dire, et merci à vous aussi, surtout.
18 ans, ça fait un bail. Hein. Plus de belles expériences professionnelles. Voilà. Et de bonheur, parce que je crois qu'on a amené quelque chose au public. Et ça, c'est quand même... Ça justifie notre activité, ça justifie notre existence.
Voilà une fin qui s'annonce forte en émotion. On vous a fait écouter un petit morceau du dernier jour de tournage de Michel Korde à l'instant dans Chut, on écoute la télé. Je vous rappelle qu'on consacrera une émission spéciale le lundi 14 novembre avec plus d'une dizaine de comédiens qui seront dans l'émission pour célébrer la fin de ces 18 ans d'histoire de la série. On va se retrouver dans un instant pour la sortie du film Les Amandiers. Ce sera le 16 novembre au cinéma. La réalisatrice Valeria Bruni-Tedeschi sera avec nous, accompagné de ses comédiens Nadia Tereskevich ou encore également Vassili Schneider et Soufiane Benasser. Alors surtout, ne bougez pas, à tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Notre coup de cœur ciné aujourd'hui est consacré au film Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi qui est avec nous. Bonjour Valeria.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Elle va être rejointe d'ailleurs, Valeria, par ses comédiens d'ici quelques minutes. On va parler des Amandiers, ce théâtre créé par Patrice Chéreau dans lequel vous avez étudié. Et le film parle effectivement de ces jeunes des années 80 qui ont tenté justement leur entrée dans cette école et raconte un peu leur histoire, leur parcours dans les années 80.
Oui, mais c'est important de dire que ça parle pas que de jeunes qui ont envie d'être acteurs et actrices, mais ça parle de la jeunesse en général. Et je pense que c'est un film qui va au-delà du théâtre et du jeu de l'acteur. C'est un film qui parle, voilà, de la jeunesse, de l'envie d'aimer, de l'envie d'exister, de l'envie d'être libre, et aussi de qu'est-ce que c'est l'idée de la mort quand on est jeune. Et tout ça, c'est un film, je pense, à la fois où il y a une force d'amour et une force de mort. Il y a comme un conflit intérieur dans le film qui en fait sa puissance, j'espère.
Qu'est-ce qui vous a donné envie justement d'en faire un film? Il y a longtemps que ça trottait, cette idée-là.
C'est un ami à moi, Thierry de Peretti, qui m'a donné cette idée, mais je pense qu'en général je fais des films un peu comme si je déroulais un journal intime et que ensuite, avec Noémie Lowski, Agnès de Sacy, on en fait de la fiction. Et donc ça fait partie de mon journal intime de quand j'avais 20 ans, mais après je peux faire un journal intime d'il y a 10 ans ou d'il y a 50 ans ou d'il y a 2 ans, enfin voilà.
De quel personnage vous êtes le plus proche, vous avez été le plus proche en tout cas, quand vous avez été dans cette école, dans votre film? Lequel vous sentez le plus proche en tout cas?
Y a un personnage inspiré de moi, disons inspiré de moi, qui est le personnage de Stella. Mais ensuite, c'est devenu un personnage sur le papier, c'était plus moi. Et ensuite, quand c'est Nadia qui a été choisie pour l'interpréter, c'est devenu elle. Donc, on parle de source d'inspiration, mais on parle pas même de Chéreau, c'est une source d'inspiration. Même s'il s'appelle Patrice Chéreau, Louis Garrel, qui joue Patrice Chéreau, n'a pas fait un biopic. Il a évoqué quelque chose de l'énergie de Chéreau et de ce que Chéreau, lui, convoquait dans son imaginaire à lui.
Là où je vous rejoins vraiment, Valeria, c'est quand on regarde votre film, là vous avez entièrement raison, Les Amandiers c'est un prétexte effectivement, mais c'est aussi vraiment le sujet, c'est la vie dans ces années 80 de la jeunesse, je l'ai vécu aussi pour le coup, et l'arrivée du sida, et tous les travers que justement pouvait avoir cette époque aussi, et c'est ça que j'ai aimé aussi dans ce film, c'est qu'on raconte cette histoire très ambivalente justement de cette jeunesse des années 80, qui était pas aussi doré qu'on pourrait le penser.
Oui, je pense que ça raconte cette époque-là, qui était une époque merveilleuse et terrible en même temps. Et j'ai essayé de raconter le merveilleux et le terrible. On a essayé de raconter le merveilleux et le terrible.
Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est toutes les scènes de théâtre. Ils donnent énormément, tous vos jeunes acteurs. Vous avez été bluffé par certains.
Ah ben, tout le monde, par tous. Tous, heureusement que je suis étonnée, épatée par les gens que je filme. Sinon,
j'ai trouvé qu'ils donnaient énormément d'eux, quoi.
Ah ben oui, c'est au bout du compte, c'est plus des personnages, c'est plus mes souvenirs, c'est eux que j'ai filmés, c'est eux que j'ai aimés, et c'est eux que je pense que les gens vont aimer.
En tout cas, on va leur demander, parce qu'ils vont venir nous rejoindre dans un instant, si vous avez envie d'en savoir plus, justement, sur ce théâtre qui a formé beaucoup de jeunes comédiens à l'époque. Eh bien, le théâtre Les Amandiers, d'ailleurs, il existe toujours, ce théâtre.
Oui, oui, le théâtre existe toujours. Oui, oui.
Eh bien, vous allez pouvoir en savoir beaucoup plus, justement, là-dessus. Et puis, en même temps, voilà, découvrir, on va dire, voilà, toute une partie de vie de ces jeunes qui avaient un seul but à l'époque. C'est vraiment, eh bien, de pouvoir vivre à pleines dents et puis devenir comédien. C'était toute leur vie, c'était leur rêve. Aujourd'hui, c'était prêt à tout à l'époque.
Oui, plus peut-être qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quand même, il y a encore des acteurs et des actrices très, très généreux, comme les acteurs et les actrices de mon film.
Allez, votre leçon, on va les découvrir dans quelques instants. On va écouter la bande-annonce, Valéria. Les Amandiers, ça sort le 16 novembre au cinéma. Et c'est notre coup de cœur ciné cette semaine. À bientôt.
À bientôt, merci.
T'es trop belle. Je m'appelle Étienne.
Aujourd'hui, vous êtes 40. Et à la fin de ce stage, vous serez 12.
On est tous pris là.
Je m'appelle Pierre Roman et je suis le directeur de l'école. Patrice Ferraud est le directeur du théâtre.
Eh bien.
Voilà, Les Amandiers, c'est notre coup de cœur aujourd'hui. Cinéma dans les salles le 16 novembre, on vous le rappelle. C'est le nouveau film de Valéria Bruni-Tedeschi. Et on a maintenant trois de ces acteurs justement qui sont avec nous. On va commencer par les filles. Alors que j'écorche pas ton nom, c'est Nadia Tereskiewicz. C'est ça?
Parfait.
Et travaillé, hein, Nadia, t'as vu, qui joue le rôle de Stella. On a également Sofiane Benacer qui est avec nous, qui joue le rôle d'Étienne. Bonjour, Sofiane.
Bonjour.
Merci d'être là. Et puis on a également Vassili Schneider qui joue le rôle de Victor. Bonjour Vassili.
Bonjour.
Alors on a planté un peu le décor justement avec Valéria, puisqu'on raconte un peu l'histoire de ce théâtre des Amandiers qui a été dirigé par Patrice Chéreau dans les années 80, où vous jouez justement cette génération qui a dû faire face à beaucoup de choses, qui a dû faire face à l'arrivée du sida, qui a dû faire face à énormément de problèmes dans cette jeunesse, et puis en même temps cette fougue aussi, cette envie de devenir comédien irrésistible. Comment vous avez vécu déjà vous ce tournage et cette immersion dans les années 80, Nadia?
On a eu la chance d'être en répétition pendant longtemps avant le tournage. Donc on a créé un groupe où on avait plein d'inspiration. On a vu des films de l'époque. On n'avait pas les téléphones. On était tout le temps ensemble. On a créé une forme de troupe. Et je pense qu'aujourd'hui on l'a encore. Et aussi c'était une façon pour Valéria, je pense, de nous donner des émotions de l'époque, des sensations des années 80. Donc que ce soit des choses comme des exemples d'aller téléphoner dans une cabine, que ce soit les angoisses et les incertitudes de l'époque, la présence du sida, de la drogue, tout ça qui traverse les années 80 et que nous, on est les moins concernés aujourd'hui. Donc voilà.
Alors, justement, comment t'as vécu cette immersion dans les années 80, Sofiane?
Positivement, c'était un challenge parce que comme nous on est de la nouvelle génération, il y a tout un truc où eux ils avaient pas de téléphone, nous on est à fond dans la technologie, on est à fond dans la technologie, eux, ils étaient loin de tout ça, donc ils étaient un peu plus débrouillards. Pour ma part, j'ai fait un travail, mais je me suis pas trop cassé la tête, en fait. J'ai essayé de rester moi-même. Je fume pas dans la vie. Là, j'ai fumé. Et puis, j'ai suivi les lignes du scénario qui étaient assez magiques. Et le phrasé du scénario, et comme disait Vassili tout à l'heure, on est happé dans les années 80 par le scénario, quoi. Juste en suivant les mots, quoi.
Oui, puisqu'il y a beaucoup de scènes de théâtre en plus dans le film que vous jouez au fur et à mesure. Pour toi, Vassili, justement, eh bien cette immersion, comment tu l'as vécue?
Eh ben déjà en faisant les répétitions, en portant les costumes et en faisant les répétitions, en regardant les documentaires, en regardant les films qui ont inspiré Valéria, on a regardé les films d'Al Pacino, des films de John Cassavetes, en regardant les idoles qui ont inspiré ces jeunes acteurs de l'époque. C'est-à-dire que dans les années 80, les acteurs du moment, c'était De Niro, Al Pacino. C'est ceux-là qu'on a, dont on s'est inspiré.
C'était un Français, Jean-Paul Belmondo aussi.
Et Jean-Paul Belmondo, sauf qu'on a, on n'a pas beaucoup regardé ses films, je t'avoue, pendant les répétitions. Mais en tout cas, pendant les répétitions, déjà, voilà, on s'est emparé déjà du scénario, du contexte de l'époque, où c'est vrai que les angoisses de l'époque étaient vachement plus concernantes qu'aujourd'hui, je trouve. C'est vrai, par rapport au sida, la drogue qui gagnait en popularité. Et surtout, la jeunesse qui avait ce désir de...
Croquer la vie à pleines dents.
De croquer la vie à pleines dents. Cette jeunesse d'acteur qui voyait pas le métier du tout de la même manière qu'aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les acteurs, en tout cas, beaucoup de jeunes acteurs de mon âge ont envie de faire le métier pour la célébrité ou pour d'autres raisons qui ne sont pas forcément les bonnes. Et à cette époque, il y avait voilà une espèce de soif et une énergie qui aujourd'hui nous dépasse. Et donc Valéria nous a dit voilà, c'est vraiment très important que vous essayiez de comprendre ce que ces jeunes vivaient à ce moment-là quand ils disaient je veux rentrer dans cette école parce que sinon ma vie elle est foutue. Parce que moi personnellement, si je rentre pas dans une école, ma vie elle est pas foutue, je passe à autre chose. Mais à cette époque-là, c'était un danger de vie ou de mort.
Il y avait un objectif précis, il y avait pas d'autre chose à côté forcément qui était prévu ou de plan B à l'époque pour ces jeunes.
Et puis jouer, c'est une nécessité, et c'est ça que Valéria nous a montré, c'est que jouer n'est pas anodin, ou c'est une question de vie ou de mort, c'est important.
C'est un besoin. On le sent dans vos personnages d'ailleurs à tous les trois qui est en dehors de ça. Alors pour situer un peu l'intrigue à travers vos personnages, Stella est celle qui entretient une relation justement avec Étienne, qui essaie de le sortir un peu de l'enfer de la drogue, mais qui entretient une relation ambiguë aussi avec Victor. Quand même, il y a quelque chose qui se passe parce qu'elle a beaucoup de scènes entre les deux en quelque sorte. Non, il veut pas. Hein.
Mais non, pas du tout. En fait, au début, elle est vraiment sur Victor, quoi. Moi, mais elle s'en fout. Moi, elle me snob.
Ça va pas durer,
mais en fait, on va dire que faut remettre dans le contexte, et ça, c'est intéressant. Valérie vient d'une famille riche. Donc en fait, elle va normalement, elle va aller vers lui et pas vers moi, quoi. Donc elle va vers lui et tout. Et puis moi, après, je lui mets un petit coup de coude. Et elle s'accroche à moi, elle tombe amoureuse de moi, et voilà. Hein.
Qu'est-ce que t'en dis, Nadia, à travers le personnage de Stella, toi, de ce qu'il dit?
Je pense que Stella, elle est tiraillée. En fait, le choix entre Victor et Étienne, ça changera sa vie dans le sens où c'est pas du tout les mêmes vies. Il y a le danger d'un côté et plus de stabilité de l'autre. Et puis, elle est aussi tiraillée par son envie d'être actrice. Et quand, disons, j'ai l'impression que quand l'amour fonctionne, elle est pleinement dedans. Et quand c'est difficile et quand elle en souffre, elle tombe dans le jeu. Et du coup, elle est pleinement dans son désir d'être actrice. Donc, elle est tiraillée entre ce désir d'être actrice et l'envie d'aimer passionnément et intensément. Et oui, je pense qu'elle tombe amoureuse comme on tombe amoureux à 20 ans, et elle mélange un peu tout. Elle est dans le théâtre, dans l'amour, et je pense que c'est hyper beau parce que c'est des sentiments qui nous dépassent, quoi. C'est un truc, elle veut vivre intensément.
Voilà.
Un truc qui est très intéressant, c'est quand tu regardes le documentaire sur les Amandiers, il y a un moment où Valéria parle et elle dit que ce qui l'intéresse dans le métier d'acteur, c'est d'avoir mal. Je sais pas si tu te souviens de ce moment où elle dit j'ai envie de souffrir, presque. J'ai envie qu'on me fasse mal. Et j'ai envie qu'on me casse. Voilà. Et je trouve que ça, déjà, il y avait un peu ça chez tous les acteurs, mais en même temps, je crois que le personnage, du coup, de Valéria, de Stella, le personnage de Stella cherche ça à la fois dans l'amour, où elle a peut-être envie d'être cassée et de vivre quelque chose de violent, de fort, et même dans sa vie professionnelle. Et donc c'est pour ça que de faire l'école des Amandiers, c'est quelque chose qui n'est pas qui est dangereux, ouais.
Et à l'époque, les jeunes comédiens effectivement se battaient, hein, pour intégrer cette école qui était dirigée, on rappelle, par Patrice Chéreau. Alors peut-être que la jeune génération ne sait pas qui est Patrice Chéreau, mais c'est quand même la reine Margot. C'est des dizaines de films à son palmarès. C'était un cinéaste incroyable qui mordait lui aussi la vie à pleines dents, et un metteur en scène de théâtre qui était dinguissime, quoi.
Théâtre et opéra.
C'est vrai que franchement, c'est une icône aujourd'hui de la culture et du patrimoine, en tout cas culturel français. Ça, c'est une certitude. Merci de nous avoir fait vivre tout ça, en tout cas, à travers ce film, que vous allez peut-être apprendre des choses, découvrir. Je vous invite à aller voir Les Amandiers, en tout cas le 16 novembre, au cinéma. Merci également à Valéria, qui était avec nous juste avant. Et puis, je vous souhaite en tout cas plein de belles choses pour la sortie de ce film, à tous les trois. Un petit bonjour au reste de la troupe, en tout cas. Vous avez été tous formidables. Vous avez donné beaucoup, en tout cas, pendant ce film. Ça s'est senti énormément à l'écran. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Soit vous menez une vie normale, soit vous devenez actrice et là, vous brûlez vos vies. C'est un métier de pute et de pédé qu'on fait.
Exactement. Hein? Un jour, il va plus se retenir. Un jour, il va plus être profondément gentil et tu vas rien comprendre.
C'est pas un passe-temps de jouer, c'est pas rien.
La femme de Franck a le sida. Et moi, j'ai couché avec lui deux fois.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. On aura le plaisir de recevoir Louis Duneton qui viendra nous parler de la série Addict. On aura également le plaisir de recevoir Philippe Basse pour Le Sentier des Loups, Le Saut du Diable 2. On continuera à parler évidemment de Plus belle la vie avec aussi bien d'autres surprises qui vous attendent dans Chute, on écoute la télé.
Attitude.
Et n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé sur Attitude, c'est aussi la quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, 12h07 et 16h07. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h, sur notre site internet onécoutelatélé.com et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram et applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude. À tout à l'heure, 16h07 pour la dernière quotidienne de la journée.
Chute, on écoute la télé avec France Pare-Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Pare-Brise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus. Prenez rendez-vous chez France Pare-Brise, 79 avenue de Saintes à Cognac.
Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.